Il est maintenant 18h30 ici à Paris. RFI Soir continue avec les dessous de l'Infox. Bonsoir Sophie Malibaud.
Bonsoir Philippe.
Les dessous de l'Infox. Sophie Malibaud.
Et bonsoir, bienvenue à toutes et tous dans les dessous de l'Infox. Les images générées par l'intelligence artificielle envahissent nos réseaux sociaux. Les événements très médiatisés du moment s'y prêtent particulièrement, comme nous le verrons, avec Grégory Genevrier de la cellule Info Vérif de RFI qui nous emmène dans les coulisses de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Puis nous rejoindrons Kao Fissoui de l'AFP Factuel à Abidjan. Il épingle une infox qui a fait le buzz autour du chef de l'État et du célèbre boxeur Anthony Joshua, victime d'un accident de la route. Mais pour commencer, le regard acéré de notre invitée, la philosophe Anne Alombert. Elle nous permet de mieux comprendre justement ce qui se joue à travers ces modèles d'intelligence artificielle de plus en plus accessibles au grand public, la part de mystification dans l'IA. On observe beaucoup de mensonges et mystifications autour des intelligences artificielles et pas seulement parce que les modèles d'IA génératifs permettent de créer des images trompeuses, ce que nous entendrons en deuxième partie d'émission où l'on voit des IA génératifs d'images faire passer pour réelles des choses qui n'existent pas, mais le simple fait de les nommer intelligence artificielle est trompeur en soi. C'est ce que nous allons évoquer à l'instant avec vous, Anne Alombert. Vous êtes philosophe, maîtresse de conférences à l'Université Paris 8, spécialiste du numérique. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, pourquoi parler de bêtises artificielles? C'est le titre de votre essai.
Parce que je me suis interrogée dans ce livre, en fait, sur ce que pouvaient provoquer ces dispositifs qu'on appelle donc les intelligences artificielles génératives sur nos esprits et sur nos cultures, en fait. Et donc, contrairement à l'approche, on va dire, la plus commune, qui consiste à attribuer toutes sortes de propriétés psychologiques, mentales, cognitives à ces dispositifs-là, eh bien, moi, je me suis demandé plutôt ce que ces dispositifs nous faisaient, en fait, ce que les intelligences artificielles faisaient à nos esprits, à nous et à nos intelligences. Et il m'a semblé qu'il y avait des risques d'abêtissement, en réalité, à la fois parce que nous allons déléguer un certain nombre de capacités psychiques, mentales ou cognitives à ces dispositifs, notamment nos capacités expressives, nos capacités à écrire, à parler, mais aussi parce que ces dispositifs-là vont transformer considérablement nos milieux symboliques, nos milieux culturels, en générant toutes sortes de contenus automatiquement et en provoquant peut-être une dégradation justement de ces contenus culturels et symboliques.
Et alors, il y a tout ce vocabulaire relative aux machines que l'on dit capables d'apprendre. On parle de machine learning en anglais. On parle de l'entraînement des IA. On les imagine un petit peu à la gym en train de se muscler. Tout ça est abusif, comme c'est des abus de langage, vous diriez?
Oui, je dirais que ce sont des métaphores qui sont trompeuses en réalité, parce qu'elles nous empêchent de voir la dimension matérielle, infrastructurelle, industrielle de ces dispositifs, le fait qu'en réalité on parle de centres de données, de câbles sous-marins, de satellites, etc. Donc d'un système technologique et industriel et non pas d'une espèce d'intelligence ou de conscience algorithmique un petit peu mystérieuse et éthérée. Et puis d'autre part, parce qu'on va en fait confondre des machines algorithmiques qui ont été conçues, développées, avec des personnes humaines. En fait, on va les anthropomorphiser. Et ça, ça peut créer toutes sortes de risques, en termes aussi, des risques d'attachement émotionnel à certains dispositifs technologiques qui peuvent être très nocifs.
Mais avant même d'aborder ce chapitre-là, moi, je voudrais que vous nous expliquiez, en fait, la réalité même des intelligences artificielles, ça se compose de quoi?
Alors, les intelligences artificielles génératives que nous utilisons aujourd'hui, parfois quotidiennement pour certaines personnes, en fait, ce sont des algorithmes qu'on appelle des grands modèles de langage ou des modèles de fondation. Ce sont des ensembles d'algorithmes, on pourrait dire, d'une certaine manière, qui vont faire des calculs de probabilité, en général, sur des quantités massives de données. Et ces données, en fait, ce sont des données qui ont été récupérées sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur les sites, dans tout l'espace numérique. Et ces données, elles sont stockées dans des centres de données. Et ces modèles et ces algorithmes, ils sont entraînés ensuite pour faire tous ces calculs sur toutes ces données. Et ensuite, ils font des prédictions automatiques, c'est-à-dire un petit peu comme les logiciels d'autocomplétion. Par exemple, vous avez souvent affaire à des logiciels d'autocomplétion sur vos téléphones portables ou bien quand vous faites des recherches dans un moteur de recherche, c'est-à-dire que vous commencez à rentrer une phrase, quelques lettres, et puis le logiciel vous recommande automatiquement la suite de votre phrase. Et ça, c'est parce que ce logiciel a fait des calculs statistiques sur toutes les demandes des autres utilisateurs et il en a déduit, si je puis dire, que les demandes les plus probables étaient celles qui vous sont suggérées, en fait. Et donc, ces dispositifs d'intelligence artificielle générative, ils fonctionnent un petit peu de la même manière, c'est-à-dire qu'en fait, ils font des calculs de probabilité et en fonction des suites de signes, des séquences de signes les plus probables, eh bien, ils génèrent une réponse probable à la question que vous avez posée, à partir des calculs qu'ils ont faits sur l'ensemble de données qui les a nourris. Donc, en fait, on a affaire à des machines probabilistes, d'une certaine manière, qui supposent elles-mêmes, bien sûr, des infrastructures industrielles, matérielles, assez énergivores, d'ailleurs, pour pouvoir fonctionner.
Et en fait, ce que vous expliquez, c'est que ça n'a rien à voir avec la façon dont notre cerveau fonctionne. On parle de connexion neuronale, mais en fait, quelle est la distinction ?
Alors, il y aurait beaucoup de distinctions à faire, mais ce qui est certain, c'est que nous, quand nous parlons, ou bien quand nous produisons des images ou des sons, etc., nous ne faisons pas des calculs de probabilité, si vous voulez. Notre cerveau ne fait pas des calculs statistiques sur tout ce que nous avons entendu auparavant. En réalité, c'est tout à fait différent ce qui se passe. Nous sommes des êtres interprétants, d'une certaine manière. Donc nous interprétons. C'est la raison pour laquelle, par exemple, si vous lisez un texte et si moi je lis un texte, nous n'allons pas avoir la même interprétation. Parce qu'en fonction de notre vécu, c'est-à-dire de notre mémoire, de tout ce que nous avons vécu auparavant, et en fonction aussi de nos attentes, de nos désirs, de ce que nous cherchons dans l'avenir, si je puis dire, eh bien nous allons lire le texte différemment. Les intelligences artificielles génératives, elles n'ont pas de corps, elles ne sont pas vivantes, évidemment, hein, elles n'ont pas de vécu, de mémoire. Et donc, si vous voulez, ce sont seulement, si je puis dire, des calculs de probabilité. C'est-à-dire que ce qui est sélectionné, ce qui est retenu, c'est ce qui est majoritairement représenté. Vous voyez ? Alors que vous, quand vous lisez un texte, parfois vous allez retenir une petite chose qui n'était presque pas mentionnée dans le texte, mais qui vous a interpellé parce que ça a résonné, parfois peut-être avec un traumatisme très ancien ou avec un désir, etc. Et donc, c'est ça qui fait la richesse et la diversité des interprétations humaines. Donc nous ne sommes pas du tout des machines à calculer.
Oui, mais alors moi, je vois par exemple circuler des informations assez sensationnalistes, d'ailleurs, qui nous disent que bientôt, les IA seront capables de réagir à la douleur, des choses comme ça.
Alors, je pense que, si vous voulez, la notion qui est importante ici, c'est la notion de simulation. Parce qu'on peut simuler toutes sortes de choses. On peut simuler des réactions à la douleur, on peut simuler la compréhension, on peut simuler l'invention, on peut simuler la créativité. Mais encore une fois, il faut vraiment se méfier de l'apparence extérieure, du résultat extérieur et essayer toujours d'aller voir un petit peu ce qui se passe derrière l'écran, derrière l'interface. Donc, quels sont les modèles mathématiques qui ont été mobilisés, quels sont les calculs qui ont été effectués, sur quel jeu de données. Et c'est comme ça qu'on comprend comment fonctionnent les machines. Donc, je serais un petit peu, disons, prudente à l'égard de toutes ces tentatives d'anthropomorphisation, pardon.
C'est-à-dire que voilà, on donne l'impression que la machine peut, parce que c'est ça aussi qu'il y a derrière l'idée, c'est que la machine, à un moment donné aussi, va avoir peut-être les capacités de se substituer à l'humain, de le remplacer.
Oui, l'idée qui est derrière, c'est une idée de la machine qui serait une sorte de double de l'humain. Donc c'est aussi potentiellement l'idée selon laquelle on pourrait remplacer les humains par des machines. Donc il y a aussi des enjeux politiques en fait derrière cette idéologie, parce que si nous ne sommes, nous les humains, que des machines à calculer, et que on le voit bien, hein, les progrès en termes de puissance de calcul sont très importants, et bien ça signifie que finalement on pourrait tous et toutes nous remplacer. Et ça, évidemment, c'est une manière aussi de dire aux humains de manière implicite qu'ils n'ont pas beaucoup de valeur en réalité.
Et c'est ce qu'on appelle l'arrivée au stade de la singularité technologique, c'est ça ?
Oui, alors l'idée de singularité technologique, en fait, c'est une idée qui est très présente dans les discours transhumanistes et qui consiste à décrire une phase du développement technologique et industriel durant laquelle, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les intelligences artificielles, que moi j'appelle plutôt des automates numériques en réalité, vont être capables de surpasser par leur performance les capacités humaines qu'on qualifie habituellement d'intelligentes. Donc l'idée, c'est aussi qu'on va réussir, disons, à produire des dispositifs qui seront capables de faire toutes sortes de tâches très diversifiées. Alors qu'aujourd'hui, les systèmes auxquels on a affaire, ils sont plutôt performants dans une tâche spécialisée. Mais l'ambition, disons, des directeurs des grandes entreprises de la Silicon Valley, par exemple, c'est bien souvent d'arriver à ce fantasme de l'intelligence artificielle générale qui serait capable de faire toutes sortes de choses à notre place.
On en est au point où Elon Musk, par exemple, tout récemment, dans une interview à un influenceur, expliquait qu'il n'y avait plus besoin d'aller faire l'école de médecine. Parce que, effectivement, c'est vrai quand même que les chirurgiens, l'IA va énormément aider dans les opérations chirurgicales.
C'est compliqué à dire de manière générale. Il faudrait regarder vraiment plus précisément comment elle peut aider et quels sont les risques aussi. Parce que, justement, moi, j'insiste beaucoup dans mon livre sur cette dimension pharmacologique de la technologie en disant que toute technologie, en fait, peut toujours, d'une certaine manière, nous augmenter, nous aider. En général, la technologie va augmenter notre précision, notre vitesse, notre exactitude, notre efficacité. Mais qu'il y a aussi toujours une autre face de la pièce, si je puis dire. C'est-à-dire qu'au moment même où la technologie nous augmente, eh bien, elle nous diminue aussi parce que nous allons lui déléguer un certain nombre de capacités et que ces capacités, nous n'allons plus les mobiliser, les exercer, etc. Et donc, qu'il y a un certain nombre de risques et qu'il n'y a jamais de pure augmentation, en fait. Donc, par exemple, on nous parle beaucoup dans le champ de la médecine de tout ce que pourrait apporter l'intelligence artificielle en termes de reconnaissance d'images, par exemple, pour analyser l'imagerie, les imageries médicales, etc. Et donc, effectivement, ça peut être très utile d'avoir ce type de dispositif, mais à condition qu'il ne se substitue pas, en fait, aux capacités d'interprétation et de décision humaine, parce qu'un médecin, encore une fois, il a, chaque cas est quand même très singulier. C'est-à-dire que chaque patient n'interprète pas de la même manière ses symptômes, etc. Donc, le médecin, il fait pas attention seulement à une liste de symptômes ou à une quantité donnée d'images, mais il les interprète en fonction d'un contexte singulier. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et par ailleurs, les médecins n'apprennent plus, c'est-à-dire ne mémorisent plus tous les savoirs médicaux, eh bien, en fait, ils risquent de devenir complètement prolétarisés, c'est-à-dire complètement dépendants des machines qui vont faire, entre guillemets, le travail à leur place. Mais ça, c'est potentiellement très dangereux parce qu'on sait qu'une machine, en fait, elle est toujours encadré dans un dispositif social. Et donc, si les humains qui mobilisent cette machine ne comprennent pas comment la machine fonctionne et sont dépossédés de leur savoir médical, eh bien, il y a un certain nombre de problèmes qui risquent de se poser.
Alors justement, dites-nous qui se trouve derrière cette approche idéologique, en fait, de l'intelligence artificielle. Vous avez déjà mentionné un petit peu les big tech de la Silicon Valley. Alors, quelle est leur logique et quel est leur intérêt dans tout ça?
Moi, ce que je vois, c'est que dans beaucoup de technologies numériques qui sont développées par ces entreprises de la Silicon Valley, qui s'appuient bien souvent sur des travaux très précis dans le champ de la psychologie cognitive, de la psychologie comportementale, des neurosciences, donc qui comprennent très bien en fait la manière dont fonctionne, si je puis dire, le cerveau humain. Ce que je vois bien souvent, c'est que les dispositifs qui sont mis à la disposition du grand public sont conçus pour entraîner des relations de dépendance à la technologie. Par exemple, on a beaucoup parlé dans le cas des réseaux sociaux de certaines fonctionnalités en fait comme le défilement infini qui permet aux individus de faire défiler les vidéos à l'infini sur telle ou telle plateforme pour ne pas avoir à décider tout d'un coup de changer de service, etc. Donc ça, c'est une technique qui permet de garder les utilisateurs connectés sur telle ou telle plateforme. Et là, avec les chatbots, par exemple, donc avec les IA génératives, conversationnelles, on observe le même type de technique. Par exemple, le fait que ces chatbots parlent bien souvent à la première personne du singulier, ils disent « je », ça incite l'usager à anthropomorphiser la machine. Le fait que, bien souvent, les IA génératives nous relancent quand on va demander telle ou telle chose à ChatGPT. ChatGPT va nous dire « ne voudrais-tu pas avoir une information supplémentaire ?» Donc ça, c'est une manière aussi de nous maintenir connectés. Ou bien le fait que le chatbot va s'adapter à nos données et nous flatter, nous dire à quel point nos questions sont formidables, à quel point on est intelligent, original, etc. Ben ça, c'est aussi une technique pour nous maintenir connectés et puis pour créer une forme de dépendance au service. Et je crois que ce modèle-là de la dépendance technologique, en fait, et donc de l'économie de l'attention, puisqu'il s'agit fondamentalement de capter les attentions des usagers ou des consommateurs pour les maintenir connectés, eh bien, il est potentiellement très dangereux et il est très développé dans de nombreuses industries numériques qui nous viennent justement de la Silicon Valley et qui se basent sur ces études de captologie.
Anna Lombert, vous êtes philosophe et vous nous expliquez aujourd'hui les ressorts des intelligences artificielles. Et pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui, vous revenez plusieurs siècles avant notre ère avec l'apparition de l'alphabet, de l'écriture. En quoi les processus sont-ils comparables? L'apparition de l'alphabet, l'apparition des algorithmes?
Alors, La comparaison que je fais, en fait, elle porte sur plusieurs aspects, mais l'aspect le plus clair, me semble-t-il, c'est celui qui consiste à étudier ces technologies comme des dispositifs dans lesquels nous allons déléguer un certain nombre de capacités psychiques, mentales ou cognitives. Et en fait, quand Platon s'intéresse à la question de l'écriture alphabétique dans un dialogue qui s'appelle le Phèdre, il envisage cette technique comme un support de mémoire. Et il soutient que finalement, à travers l'écriture, nous extériorisons notre mémoire. Et l'un des risques qui est souligné par Platon dans ce dialogue, c'est le fait que l'écriture va nous permettre de retenir beaucoup, beaucoup plus de choses, puisque grâce à cette technique, nous allons pouvoir accumuler toutes sortes de connaissances. Mais en même temps, le risque, c'est que nous n'entraînions plus, nous n'exercions plus notre mémoire vivante psychique. C'est-à-dire qu'au lieu de retenir par nous-mêmes ce que nous lisons, ce que nous entendons, etc., finalement, on se repose sur les supports écrits et on se contente en fait de répéter la connaissance extériorisée. Et il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes face à un nouveau risque de délégation des capacités psychiques ou cognitives à travers justement l'usage de ces IA génératives, notamment quand on les utilise pour écrire à notre place. Donc là, ce ne sont plus seulement les capacités mémorielles que nous allons déléguer à la machine, mais ce sont les capacités expressives. C'est-à-dire que, au lieu de s'exprimer, nous allons demander à un système algorithmique de calcul probabiliste de s'exprimer à notre place. Or, quand nous nous exprimons, nous devons faire un effort de remémoration. Nous devons nous souvenir de ce que nous avons appris, etc. Nous devons aussi faire un effort d'imagination. Donc, nous devons nous projeter vers la signification que nous souhaitons véhiculer, etc. Et donc, en fait, ces capacités de mémoire et d'imagination qui sont à l'œuvre dans les activités expressives, nous risquons, en fait, de les abandonner, de cesser de les exercer en nous reposant, en fait, sur ces dispositifs algorithmiques. Et une étude pré-publiée par des chercheurs du MIT a montré qu'effectivement, il y avait certaines zones cérébrales qui n'étaient pas mobilisées quand on utilisait un service comme ChatGPT, ce qui semble confirmer cette idée d'une éventuelle prolétarisation cognitive.
Oui, mais alors, on a bien survécu à l'apparition de l'écriture et de l'alphabet. Et là, il y a un facteur qui entre en jeu. C'est le facteur collectif de ce que la société peut, la façon dont la société peut réagir à ces nouveautés.
Oui, tout à fait. Et alors, évidemment, nous avons survécu à l'apparition de l'écriture. Et même, je dirais même en fait que l'écriture alphabétique s'est révélée porteuse de beaucoup de savoirs et de transformations sociales et politiques très positives. Mais si vous voulez, cela ne s'est pas fait automatiquement, tout seul. C'est-à-dire que pour que l'écriture alphabétique donne lieu à de nouveaux savoirs, comme les mathématiques, la philosophie, etc., il a fallu transformer complètement l'éducation des citoyens. Le fait que, il faut que cette technique soit comprise et maîtrisée par les citoyens. Donc, il faut envisager l'apprentissage de l'écriture, de la lecture, etc., au fil de l'éducation. Et puis aussi, si vous voulez, l'un des changements qu'a rendu possible en fait l'écriture dans la société grecque et qui est décrite notamment par un historien qui s'appelle Jean-Pierre Vernant, c'est le fait que l'écriture a rendu possible la publication des lois. Et donc, en fait, la visibilité des lois pour tous et la possibilité pour les citoyens, tout simplement, de les interpréter, de les critiquer, etc. Et donc, une nouvelle forme de citoyenneté. Et avec elle, une nouvelle forme d'exercice de la démocratie qui est celle qui est à l'œuvre dans la cité grecque et qui n'est pas parfaite à bien des égards. Mais disons que, c'est important d'avoir tout ça en tête parce que aujourd'hui, nous sommes face à un bouleversement considérable des systèmes d'écriture et nous sommes très en retard, en fait, dans ce processus d'adoption. Parce qu'effectivement, quand on regarde notre système scolaire, éducatif, etc., on se rend compte qu'on a un manque de culture technique tout de même et qu'il serait grand temps d'accentuer l'éducation aux médias dans les parcours scolaires et que les citoyens de demain comprennent en fait les dispositifs qui constituent leurs environnements quotidiens. Non pas qu'ils savent les utiliser seulement, parce que ça c'est facile, mais qu'ils comprennent comment ils fonctionnent pour pouvoir les utiliser de manière critique et cultivée. Et puis par ailleurs, il y a un véritable enjeu pour nos démocraties aujourd'hui.
Est-ce que vous avez l'impression que finalement, en ce moment, le risque, il tient au fait qu'il y a l'accélération technologique d'un côté et une sorte de renoncement du politique? Quand on oppose l'innovation à la régulation, par exemple, quand on dit, bon, bah, il faut réguler, mais pas trop, parce qu'autrement, on risque d'empêcher l'innovation. Cette dichotomie, elle est pertinente ?
Non, je pense que c'est un faux débat, en réalité, parce qu'il y a toujours de la régulation. C'est-à-dire, même quand on croit qu'il n'y a pas de règles, en réalité, c'est simplement qu'on ne les connaît pas, les règles. Et par ailleurs, la régulation de certains processus peut permettre plus d'innovation. Par exemple, si aujourd'hui, on exigeait qu'il y ait plusieurs algorithmes de recommandation sur les réseaux sociaux, ce qui est une des recommandations que nous avions fait avec le Conseil national du numérique et qui a été reprise dans les états généraux de l'information. Donc l'idée qu'il y ait un pluralisme algorithmique, qu'on ait le choix entre plusieurs algorithmes de recommandation, bah, vous voyez, ça c'est une loi d'une certaine manière, mais elle pourrait donner lieu à toutes sortes d'innovations en termes d'algorithmes de recommandation. De même, la nécessité de pluraliser aujourd'hui les systèmes d'intelligence artificielle générative pour éviter en fait qu'il y ait des monopoles sur ces industries, elle suppose un certain nombre de régulations, mais qui permettent de favoriser l'innovation et la concurrence, etc. Donc, je crois qu'il ne faut pas trop opposer régulation et innovation. Bien au contraire, il faut voir comment les faire fonctionner ensemble. Et surtout, il faut voir comment certaines règles peuvent nous aider à améliorer les technologies qui sont utilisées par le plus grand nombre. Par exemple, le fait d'exiger que des systèmes d'IA générative donnent leurs sources, ça peut être très utile pour beaucoup de citoyens, vous voyez. Donc, il y a toutes sortes de règles comme ça qu'on peut envisager collectivement, discuter, débattre collectivement, et qui peuvent favoriser non seulement des innovations alternatives, mais aussi l'amélioration des dispositifs dominants.
Merci beaucoup, Anna Lombert. Alors, il y a beaucoup de solutions justement proposées dans votre livre. Donc, je recommande la lecture de La bêtise artificielle aux éditions Alia. Et on part à présent pour la Cannes avec Grégory Genevrier. Bonsoir Grégory.
Bonsoir Sophie.
Alors disons plus honnêtement que l'on va s'intéresser avec vous au déferlement d'images relatives à la Coupe d'Afrique des Nations sur les réseaux sociaux et tout particulièrement à la prolifération des contenus générés par l'intelligence artificielle. On est à 2 jours de la finale qui opposera le Maroc et le Sénégal ce dimanche à Rabat et l'on assiste à une vague d'infox ciblant notamment l'arbitrage et le Maroc, pays hôte de cette 25e édition.
Oui, depuis le début de cette CAN, les accusations d'un arbitrage maison en faveur des Lions de l'Atlas sont alimentées par une vague de faux contenus. L'exemple le plus marquant, c'est une vidéo à propos du 8e de finale remporté 1-0 par le Maroc contre la Tanzanie. Durant 10 secondes, on pense y voir à tort l'arbitre de la rencontre présenter ses excuses aux supporters tanzaniens.
Je vais m'adresser aux supporters tanzaniens. À la dernière minute, il y a eu un contact dans la surface et je n'ai pas sifflé le pénalty. C'est une erreur. J'ai senti la pression des Marocains sur mon dos et j'ai manqué de courage.
Sauf que cette vidéo n'est pas réelle.
Non, Sophie, tout est faux. Ces images vues plus de 4 millions de fois ont été entièrement générées par intelligence artificielle. Plusieurs éléments le prouvent, comme cet homme qui ne ressemble pas du tout à Boubou Traoré, l'arbitre malien au sifflet de ce match. On note aussi l'absence de bleu sur les drapeaux tanzaniens, un texte illisible sur le logo de la FIFA ou encore un public anormalement immobile.
Et donc ces infox, elles détournent aussi l'image des joueurs.
À commencer par la sélection algérienne éliminée en quart de finale contre le Nigeria sur le score de 2-0. Une vidéo prétend montrer un Fenech critiquer violemment l'arbitrage et le Maroc en conférence de presse.
On parle de foot ou de magouille ? Le Maroc, ils veulent déjà la coupe avant de jouer. Ils payent les arbitres, ils jouent que contre des équipes faibles. C'est ça la CAN.
Mais là encore, tout a été généré par intelligence artificielle. Le maillot algérien ne correspond pas à la tenue officielle. Il est écrit CAN 206 au lieu de CAN 2025. Et puis le logo de la Confédération africaine de football n'est pas correct.
Et ce type de vidéo artificielle se compte par centaines, Grégory.
Oui, nous avons identifié plusieurs comptes TikTok qui diffusent quotidiennement ce genre d'infox. Des interviews d'après-match qui dérapent, des arbitres en pleurs, des coachs giflant leurs joueurs dans les vestiaires. Les mises en scène touchent toutes les sélections et tous les acteurs sur ou en dehors du terrain. Au total, ces vidéos cumulent plus de 50 millions de vues rien que sur TikTok. Si certaines prêtent à sourire, d'autres visent délibérément à désinformer et à attiser les tensions. Les commentaires montrent malheureusement que certains supporters tombent dans le panneau.
Alors, c'est la question cruciale. Comment ne pas se faire avoir ?
Eh bien, pour détecter l'usage de l'IA, soyez attentifs aux détails visuels. Les logos, les inscriptions textuelles comportent régulièrement des défauts. Les visages des joueurs ne sont pas ressemblants, surtout pour les connaisseurs. Le son aussi est souvent trop lisse, trop parfait. Et puis, il ne faut pas oublier l'indicateur temporel. On le répète souvent ici, toutes ces vidéos durent de 5 à 15 secondes, jamais plus. C'est un élément qui peut trahir l'utilisation d'un outil d'intelligence artificielle.
Merci Grégory Genevrier. Sur notre site RFI.fr, vous montrez étape par étape ce travail de vérification avec des exemples de vidéos.
dessous de l'infox sur RFI.
On reste plus ou moins dans le domaine sportif avec un autre exemple d'altération du réel par les IA génératives d'images. Cette fois-ci avec Kaofi Soui de l'AFP Factuel qui est en ligne d'Abidjan. Bonsoir Kaofi.
Bonsoir Sophie et bonsoir aux auditrices et auditeurs de RFI.
On revient avec vous aujourd'hui sur le tragique accident de la route survenu le 29 décembre au Nigeria. Le boxeur britannique d'origine nigériane, Anthony Joshua, était dans le véhicule ainsi que deux de ses proches et anciens coachs. Eux n'ont pas survécu et lui s'est retrouvé blessé à l'hôpital. L'accident a été très médiatisé et sur les réseaux sociaux, on a vu circuler des contenus mensongers, dont cette scène que vous nous décrivez, Kaofi.
Oui, tout à fait Sophie, des publications aimées des milliers de fois sur Facebook affirment que le président nigérian Bola Tinubu aurait rendu visite au boxeur d'origine nigériane sur son lit d'hôpital à Lagos. Tous ces posts avancent pour preuve des photos ou des vidéos qui montrent le président vêtu d'un boubou bleu et accompagné de son service de sécurité échanger avec un Anthony Joshua alité au milieu d'une chambre d'hôpital.
Mais en fait c'est faux, n'est-ce pas Kaofi?
Complètement faux. Ce qui est vrai, c'est que le président Bola Tinubu a bien, comme de nombreuses personnalités, exprimé son soutien au boxeur. La présidence a indiqué dans un communiqué envoyé le lendemain de l'accident que le chef de l'État s'était entretenu avec Anthony Joshua au téléphone. Il a aussi publié un message de soutien officiel sur sa page Facebook et son compte X. Mais il ne s'est pas rendu au chevet du boxeur et pour cause, le président était en voyage à l'étranger durant toute la durée de son hospitalisation du 29 au 31 décembre 2025. Bola Tinubu avait quitté le pays le 28 décembre 2025 pour quelques jours de vacances en Europe avant de se rendre directement à un sommet qui a lieu aux Émirats Arabes Unis du 11 au 15 janvier 2026, a indiqué la présidence.
Alors d'où proviennent les photos et les vidéos censées illustrer cette visite qui n'a pas eu lieu?
Elles sont fausses et un porte-parole de la présidence nous l'a confirmé et ont été générées par intelligence artificielle. Heureusement pour nous, plusieurs indices visuels nous permettent assez facilement de le démontrer. On voit par exemple sur certaines images que les doigts du président sont déformés, étrangement entrelacés et il lui manque au moins un ongle. C'est très flagrant aussi sur l'une des vidéos où un bras du boxeur semble passer à travers le corps du président lorsqu'il s'étreigne. Lors de cette accolade, il y a aussi un plan où Anthony Joshua a trois bras, une incohérence visuelle typique des contenus générés par intelligence artificielle.
Merci Kaofi Soui pour l'AFP Factuel à Abidjan. Alors ces indices que l'on détecte à l'œil nu lorsque l'on observe attentivement ces images, il faut dire qu'ils sont de plus en plus rares à mesure que les outils de génération d'images s'améliorent. Et même lorsqu'ils sont visibles, en fait, quand on scrolle rapidement sur les réseaux sociaux, il y a peu de chances qu'on les remarque. Et en l'absence de toute modération, eh bien cette prolifération d'infox sur les grandes plateformes est bien en train de les transformer en réseaux antisociaux, comme le pointe la philosophe Anna Lombert qu'on entendait en ce début d'émission. Les dessous de l'infox, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos invités et chroniqueurs, ainsi qu'à Hélène Avril à la réalisation. Rendez-vous pour ceux qui le souhaitent dans les coulisses de l'info sur notre site RFI.fr ou sur l'appli RFI Pure Radio. Et pour l'instant, c'est avec Philippe Le Caplin que vous avez rendez-vous pour la suite de RFI Soir.
Absolument, Sophie Malibeau. Bonne soirée à vous. RFI Soir, c'est dans un peu plus d'une demi-heure. Afrique Soir, l'actualité sur le continent. Et ce sera avec vous, Zéphirin Kouadio. Au programme
ce soir, les élections en Ouganda, bien sûr. Hein, double scrutin. Les électeurs votaient hier pour des législatives et la présidentielle. Après une journée de vote sous tension hier, on attend les résultats. Ils devraient être annoncés avant demain après-midi, comme le prévoit la Constitution. En attendant, la tension est montée d'un cran ce vendredi. On fera le point avec Carole Valade. Nous irons aussi en République démocratique du Congo, où l'AFC M23 annonce son retrait de la ville d'Uvira. Deuxième ville de la province du Sud Kivu, annonce faite dans un contexte de forte pression internationale, notamment des États-Unis, très critiques à l'égard de Kigali et du mouvement armé. Patient Ligodine, on fera un point sur la situation sur le terrain. Et puis nous reparlerons également des combats survenus mardi dans le sud du Tchad, affrontement opposant l'armée aux combattants rebelles du mouvement pour la paix, la réconciliation. Et le développement, le bilan établi par l'armée fait état de 3 morts et 10 blessés dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Beaucoup plus selon le MPRD qui n'a publié aucun bilan. bilan des pertes dans ses rangs.
Donc on verra tout cela en détail tout à l'heure. Vous écoutez Radio France.